Radio Prague, émission en langue française. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Voici pour commencer un bulletin d'information qui vous sera proposé par Václav Richter. Le Premier ministre tchèque Jiří Paroubek cherche toujours à convaincre quelques députés sociaux-démocrates récalcitrants qu'il doit voter pour son cabinet lors du vote de soutien qui aura lieu dans la Chambre des députés le 13 mai prochain. Pour le moment, il n'a réussi à obtenir la promesse de soutien que du député Petr Lachnit. D'autres Belges, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères Jan Kavan, hésitent encore et conditionnent leur soutien par des changements dans le travail des ministères des Affaires étrangères, des Transports et de l'Industrie et du Commerce. Depuis son entrée à l'Union européenne il y a un an, la République tchèque a obtenu 7,2 milliards de couronnes, quelque 240 millions d'euros, des fonds de l'Union pour la réalisation de programmes écologiques. Selon le directeur du Fonds d'État de l'environnement, Andrei Mudraj, dans le secteur de l'environnement, on a approuvé au total 74 projets dont la réalisation coûtera quelque 10 milliards de couronnes. Il s'agit notamment de reconstruction de centrales d'épuration et d'autres projets d'aménagement des eaux. Le ministre tchèque du Travail et des Affaires sociales, Zdeněk Škromach, estime que les licenciements préparés par la direction de la Société des chemins de fer tchèques seraient trop importants. Vers la fin de l'année dernière, les chemins de fer tchèques comptaient 71 995 employés. Cette année, la société devrait licencier 6 000 personnes. Pour éviter ces licenciements massifs, le ministre Škromach pourrait procéder à des changements dans la direction des chemins de fer. C'est dans la soirée de ce lundi que les habitants de Bruxelles peuvent assister à un grand concert de gala à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a engagé pour ces manifestations des artistes russes, américains et tchèques, dont par exemple les chanteurs pop tchèques Lucie Bila, Karel Gott, les chanteurs d'opéra Marina Vyshkvorkina et Stefan Margita, les ensembles militaires Alexandrov de Russie et de Jazz Ambassadors des États-Unis. Météo. Les températures de ce lundi 2 mai ont battu tous les records en République tchèque. À Prague, la température a atteint 28,9 degrés et à Doxanu en Bohême du Nord, le thermomètre a grimpé jusqu'à 30,9 degrés. Le ciel a été clair à variable avec quelques rares pluies et orages. Mardi, le ciel en Tchéquie se couvrira progressivement et il faut s'attendre à des averses, des orages et à la grêle. Les températures diurnes se situeront entre 24 et 28 degrés sur l'est et entre 20 et 24 degrés sur l'ouest du pays. C'était les informations de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute des programmes en français de Radio Prague pour les premiers faits et événements du mois de mai. C'est justement avec un retour sur la journée du 1er mai que nous entamons cette émission. Un 1er mai marqué par un rassemblement communiste dans la capitale et une manifestation de néo-nazis à Brno. Le président de la République, Václav Klaus, n'a pas que des ennemis parmi les pro-européens, il en a également du côté des écologistes tchèques, qui, comme nous le dira Jarka Gisubilova, dénoncent son attitude. Une page média en fin de cette émission sera consacrée aux nouvelles chaînes de télévision et de radio lancées par le service public, des chaînes qui, comme Radio Prague, sont diffusées également sur Internet. L'ensemble de la rédaction française vous souhaite une très agréable réception. Le 1er mai, l'esplanade de l'Etna à Prague en a certes connu des plus imposants, mais le rassemblement organisé par les communistes le jour de la fête du travail a cette année encore rencontré un beau succès. Le parti communiste de Bohême et de Moravie, le KSCM, s'est targué d'avoir réuni 10 000 personnes dimanche dernier. Avant la révolution de velours, des parades gigantesques étaient organisées à cette occasion, à quelques mètres de l'endroit d'où un non moins gigantesque monument à la gloire de Staline dominait la ville à la fin des années 50. Aujourd'hui, on ne rase toujours pas gratis à Prague, mais toute la semaine dernière, c'est une marque de l'âme qui a choisi l'emplacement pour y installer un rasoir géant. Dimanche dernier donc, le président du parti est monté à la tribune, acclamé par une foule dont lui-même, qui n'a pas encore fêté ses 60 ans, faisait sensiblement baisser la moyenne d'âge. Miroslav Grebeniček y est allé de bon cœur, regaillardi par une crise politique qui a de nouveau placé son parti sur le devant de la scène. Tous ces politiciens qui sont des caméléons corrompus par le pouvoir et les intrigues autour de leur patrimoine représentent un fardeau dont il faudrait se débarrasser. C'est ce qu'a déclaré en substance Grebeniček, devant un parterre acquis à sa cause, dérangé cependant pendant plusieurs minutes par une poignée de manifestants qui ont brandi des panneaux réclamant la mise hors la loi du Parti communiste. Le plus virulent d'entre eux a même été arrêté par les forces de l'ordre. Après s'être adressé à ceux dont les espoirs de novembre 1989 sont restés sans lendemain et dont la situation sociale s'est empirée, le chef du parti s'en est pris aux sociaux-démocrates. « Qu'elle aille au diable, cette bande de gredins », a-t-il déclaré. Le ministre chrétien-démocrate des Affaires étrangères, Cyril Svoboda, en a lui aussi pris pour son grade, accusé d'être une honte pour l'État tchèque parce qu'il avait déclaré la semaine précédente que la Constitution européenne pourrait être ratifiée par le Parlement et non par référendum. Rappelons ici que le KSČM est opposé à cette ratification, tout comme l'ODS, le parti fondé par Václav Klaus, qui caracole en tête des sondages. D'ailleurs, l'ODS n'a pas perdu son temps non plus ce week-end. Alors que les communistes célébraient la fête du travail à l'Etna, des militants futés ont installé des stands au bas de la colline de Petchin, là où les couples pragois se rendent traditionnellement le 1er mai pour célébrer leur amour. Et pendant ce temps-là, à Brno, la deuxième ville du pays, c'est une manifestation de néo-nazis qui a perturbé la tranquillité dominicale habituelle. Encadrés par la police, près de 300 crânes rasés ont défilé derrière les banderoles du groupuscule fasciste Résistance Nationale. Trois personnes ont été blessées, apparemment suite à des affrontements entre skinheads et militants antifascistes. Pour l'un de ces derniers, Milan Štefanec, cette manifestation n'aurait pas dû être autorisée.
Ce genre de rassemblement dans le centre-ville de Brno devrait être interdit. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse de nazisme.
Si on regarde les pages internet du groupe Résistance Nationale, qui a organisé ce défilé et qui est même qualifié de nazi par le ministère de l'Intérieur, on trouve des thèses qui nient l'Holocauste des Roms et d'autres qui considèrent la libération de Brno en 1945 comme une occupation. À Prague aussi, quelques dizaines de néo-nazis ont défilé dans le centre, terminant leur trajet devant le siège de la représentation des Allemands des Sudètes pour y coller tracts et affiches nationalistes. La semaine dernière, le président de la République, Václav Klaus, s'est fait critiquer non seulement par deux députés européens pour son attitude négative vis-à-vis du traité constitutionnel, mais aussi par des écologistes tchèques pour son refus de la loi sur les sources renouvelables. Explication avec Jarka Gisubelova.
Mercredi dernier, Václav Klaus a refusé de signer la loi sur les sources d'énergie renouvelables. Adoptée fin mars par le Sénat, la loi en question devait garantir aux producteurs d'énergie éolienne sa vente à des prix fixes pendant une période de 15 ans. Les auteurs de la loi ont cherché à satisfaire à l'exigence européenne de produire d'ici à 2010 8% de l'énergie à partir des sources renouvelables, l'éolien, l'hydraulique, les biomasses, la géothermie et l'énergie solaire. Les arguments pour justifier son refus reflètent une fois de plus l'euroscepticisme de Václav Klaus, car selon ses dires, la directive européenne est une expression d'attitude peu sage et de mi-tendancieux, confondant l'écologie à l'économie. L'énumération des sources renouvelables est tributaire de la propagande écologique militante qui évite injustement l'énergie nucléaire. Le président est convaincu que la loi fera augmenter le prix de l'énergie électrique et que son entrée en vigueur donnera le départ à des projets dévastateurs irréversibles. La région sera infestée de moulins éoliens bruyants, détruisant le relief de la région, tuant les oiseaux et constituant une lourde charge pour l'entourage. Les arguments de Václav Klaus ont indigné les écologistes. L'association des maires de Bohême du Sud les qualifie de populistes. L'association Kala regrette que Václav Klaus n'ait pas appuyé la loi sur les énergies pures, qui est la meilleure de tous les nouveaux pays de l'Union. D'après Martin Bursik, ex-ministre de l'Environnement et co-auteur de la loi, Václav Klaus a commis au moins 10 erreurs dans l'énoncé de ses arguments contre l'énergie éolienne. Lors d'une conférence de presse, Martin Bursik s'est déclaré tout particulièrement inquiet du comportement du chef de l'État qui propage des arguments peu compétents, faux et non fondés. Au château de Prague, on ne comprend pas l'indignation des écologistes. Le président n'a pas posé son veto à la loi, permettant ainsi son entrée en vigueur, a justifié dans sa réaction le porte-parole Petr Hayek.
Près de 400 grèves de foie réalisées en l'espace de 10 ans, c'est le bilan dont peuvent se féliciter les médecins de l'Institut de la médecine clinique et expérimentale de Prague. Alena Gebertova pour plus d'informations.
Mirek Smeshkal a 56 ans. Aujourd'hui, rien ne trahit plus, ni dans son physique, ni dans son comportement, le drame que cet homme costaud et souriant a eu à vivre il y a tout juste 6 ans. Il accepte pourtant volontiers d'évoquer ses souvenirs.
Já jsem předtím prakticky skoro umřel a když jsem se probudil v 35 dnech, tak jsem samozřejmě nemohl ani chodit.
J'étais pratiquement mourant. Après m'avoir plongé dans le sommeil pendant 35 jours, on m'a annoncé que seule une greffe de foie pouvait me sauver. C'est quand je soufflais à la maison, dans un état lamentable, mes 50 bougies, que l'on m'a appris que je serais opéré. C'était un beau cadeau d'anniversaire, en fait le plus beau cadeau que l'on puisse imaginer.
Mirek Smeshkal est le 124e patient sur la liste des quelques 400 malades auxquels les médecins de l'Institut de la médecine clinique et expérimentale ont sauvé la vie grâce à une greffe de foie. Le taux de survivants de plus de 5 ans, date jugée comme point de départ d'une guérison complète, varie autour des 75%, comme le souligne Stefan Vitko, président du Transplant Centre tchèque. C'est un score dépassant considérablement la moyenne européenne. La première greffe de foie en République tchèque a été réalisée en 1983 à Brno. En ce qui concerne le Transplant Centre de Prague, c'est à Berlin que ces spécialistes ont puisé au début des expériences et réalisé leurs 3 premières greffes de foie. Aujourd'hui, le Transplant Centre les offre à tous ceux qui en ont besoin, aux jeunes et aux moins jeunes. La tranche d'âge des greffés s'étend effectivement de 3 à 67 ans. Pour Mirek Smeshkal, la greffe de foie a signifié en quelque sorte le commencement d'une vie nouvelle.
Člověk daleko víc váží toho, že vlastně dostane nějaký vlastně druhý pokus na žití. Takže já si myslím, že
on apprécie dorénavant beaucoup plus les petites choses de la vie. On se sent un peu comme si l'on naissait une seconde fois. On porte un regard différent, plus serein peut-être sur le monde. Et souhaiter à quelqu'un bonne santé est tout sauf une simple formule de courtoisie.
On rappellera pour finir qu'une opération unique, une triple greffe de foie, de rein et de cœur, a été réussie récemment à Brno. Une nouvelle preuve de la position privilégiée de la République tchèque dans la médecine de transplantation qui peut se targuer de ses résultats comme de son accessibilité.
Čete 24 pour Česká televize 24, c'est le nom de la chaîne diffusée pour la première fois lundi, une chaîne toute info sur laquelle la télévision publique nationale mise beaucoup. Comme l'indique son nom, Čete 24 diffusera à terme sans interruption. Pour la capter, il faut soit être équipé d'un récepteur satellite, soit se connecter sur internet au www.ct24.cz. Il s'agit d'un tournant dans l'histoire de notre télévision, a déclaré le directeur de la télévision publique Jiří Janeček. Aussi important que l'apparition de la deuxième chaîne dans les années 70 ou que la couleur quelque temps plus tard. Il a ajouté que la nouvelle chaîne Čete 24 serait rapidement disponible sur le câble, sur les réseaux UPC ou Carnaval. La grille des programmes inclut des informations toutes les demi-heures, des débats, des informations locales, culturelles, scientifiques et sportives. À noter qu'il n'y aura pas de publicité sur cette nouvelle chaîne. Et quant à la radio publique tchèque, Český rozhlas, elle lance elle aussi de nouvelles stations, diffusée également à partir de ce lundi. La première, Radio Česko, Radio Tchéquie en français, sera consacrée à l'actualité. La deuxième, Radio Dédour, Radio Ré majeur en français, diffusera de la musique classique 24 heures sur 24. Pour l'instant, ces deux stations ne peuvent être captées que sur la toile aux adresses www.rozhlas.cz/radiocesko et www.rozhlas.cz/d-dur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Dans un instant, le sport avec Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Salut à tous les amateurs de sport. Comme chaque année, à la même période, la République tchèque va de nouveau vivre au rythme des exploits de Jaromír Jágr et de ses partenaires pendant les deux prochaines semaines. Samedi, à Vienne, a en effet débuté le championnat du monde de hockey sur glace. Tout un peuple attend de son équipe nationale qu'elle rapporte enfin au pays un titre qui lui échappe depuis 3 ans et mette fin à la suprématie canadienne. Dimanche, à l'occasion de leur premier match, les Tchèques ont battu la Suisse 3-1. Nous reviendrons sur cette bonne entrée en matière. Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons de cyclisme avec deux Tchèques qui viennent d'achever un tour du monde à vélo. Après 68 000 km de coups de pédale et 3 ans d'aventure et de découverte, Lucie Kovarjikova et Michal Yon sont arrivés à Prague dimanche. Depuis son dernier titre en 2001, qui couronnait un triplé historique au championnat du monde, l'équipe nationale tchèque de hockey sur glace est toujours revenue bredouille des grands rendez-vous internationaux. Il y a un an de cela, devant leur public, les Tchèques avaient même connu une énorme désillusion en se faisant sortir au tir au but par l'outsider américain dès les quarts de finale. À l'époque, cette élimination surprise et prématurée avait été vécue comme un drame par les supporters. Cette année, les joueurs au maillot frappés du Lyon de Bohême font une nouvelle fois figure de grands favoris à l'heure où s'ouvre le mondial autrichien. Ce statut, les partenaires de la superstar Jaromir Jagr l'ont confirmé dimanche en s'imposant, certes sans brio, mais avec autorité, face à une solide équipe de Suisse 3-1 en match du groupe D du tour préliminaire. Contre des Helvètes accrocheurs, les Tchèques ont fait l'essentiel du boulot en début de match. Après 8 minutes de jeu, ils avaient fait preuve d'une efficacité maximale pour profiter de l'indiscipline suisse et s'offrir une avance de 2 buts en supériorité numérique. La suite fut nettement moins flamboyante et il fallut dès lors attendre le dernier tiers-temps pour que les joueurs de l'entraîneur Vladimir Ružička inscrivent un troisième but qui sonna le glas des espoirs suisses. À l'issue de la rencontre, le défenseur Pavel Kubina, auteur de 2 assistances, pouvait donc être satisfait de la tournure des événements.
Les Suisses font désormais partie des meilleures équipes en Europe, comme en témoigne leur victoire contre la Suède en match de préparation. De notre côté, je pense que nous avons bien joué et fourni une prestation sérieuse, même si nous avons connu quelques problèmes en milieu de match où nous n'avons pas su concrétiser nos occasions. Les Suisses ont eu également plusieurs fois l'opportunité de marquer et de revenir à égalité au score, mais notre gardien Tomáš Vokoun a alors bien tenu la baraque. Nous avons eu la chance de profiter de 2 supériorités numériques en début de partie. Ces 2 buts inscrits nous ont alors permis d'évoluer plus sereinement et de nous libérer. Malheureusement, nous avons encaissé un but qui a remis les Suisses en selle jusqu'à notre 3e but. Dans l'ensemble, nous pouvons donc être satisfaits de notre entrée en matière dans la compétition.
Pourtant réputé pour son intransigeance vis-à-vis de ses joueurs, le coach Vladimir Ružička ne faisait pas non plus la fine bouche, bien conscient de la valeur de l'équipe suisse.
C'était le premier match et ce n'est jamais évident de bien rentrer dans la compétition. Tous les premiers matchs en général au championnat du monde sont difficiles. Et il faut ajouter que les Suisses jouent très bien, d'une manière très compacte, qu'ils patinent beaucoup, sont agressifs sur l'homme, c'est un adversaire pas facile à manier. Je pense que les Suisses poseront des problèmes à d'autres équipes pendant ce mondial. Mais d'une manière générale, les premières rencontres du tournoi ont prouvé qu'on ne peut pas sous-estimer les équipes considérées comme plus faibles sur le papier. Les outsiders ont envie de démontrer qu'ils ont leur place dans ce mondial. Désormais, toutes les équipes patinent beaucoup et sont bien organisées défensivement. Je suis donc satisfait que nous ayons gagné ce premier match contre cette bonne équipe de Suisse.
Ce mardi, pour la suite de la compétition, les Tchèques seront opposés à l'Allemagne avant d'affronter le Kazakhstan 2 jours plus tard. km, c'est la distance qu'ont parcouru en 3 ans sur leur vélo Lucie Kovarjikova et Michal Yon. Depuis le 1er mai 2002, les 2 cyclotouristes tchèques ont traversé 34 pays sur les 5 continents de la planète, y compris l'Antarctique. Lors de ce tour du monde, ils ont rejoint les points les plus au sud de l'Australie, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique et ont traversé l'Australie d'ouest en est. De retour en République tchèque, Michal Yon pouvait donc faire partager son bonheur.
Bien entendu, lorsque vous êtes assis à la maison avec une tasse de café, un crayon, une carte, un atlas, il est facile de tout bien préparer. Mais une fois que vous êtes plongé dans la réalité, tout est différent de ce que vous aviez planifié. Avant de partir, vous ne pouvez pas prévoir la météo, s'il y aura du vent, de la neige, et quels sont les problèmes auxquels vous serez confrontés. Nous sommes donc contents d'avoir été jusqu'au bout de ce périple. Nous n'avons changé de tracé initial que 2 fois, une fois au Japon à cause de la neige, et une autre fois en Afrique du Sud à cause d'inondations. Pour le reste, tout ce que nous voulions faire, nous l'avons fait.
Vous pourrez entendre plus longuement Lucie Kovarjikova et Michal Yon raconter leurs aventures et leurs découvertes lors d'une prochaine rubrique sportive. C'est avec le vélo que prend fin cette rubrique sportive. Merci de votre attention et restez en notre compagnie.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Dans la galerie des portraits des grandes figures de la musique tchèque que je vous présente dans le cadre de cette émission, j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un compositeur tchèque du siècle des Lumières. František Xaver Brixy était pour le XVIIIe siècle en Bohême ce que Smetana et Dvořák étaient pour le XIXe. Il était un des musiciens importants de la période d'avant Mozart. Né en 1723 à Prague, il a vécu en Bohême et ne quittait pas son pays. Pourtant, il était bien au courant de l'évolution de la musique de son temps. Il a composé quelques 500 œuvres qui n'ont pas vieilli et enchantent le public des salles de concert aujourd'hui comme il y a deux siècles. Fils d'un compositeur et organiste connu, František Xaver Brixy a vite appris à apprécier et aimer le chant populaire. Sa musique est empreinte de fraîcheur, de l'inspiration et de vitalité. Son tempérament et son sens de l'humour se manifestent jusqu'à dans ses œuvres sacrées. Même ses fugues sont marquées par cet humour populaire qui ne manque pas pourtant d'une certaine grâce très rococo. František Xaver Brixy est mort relativement jeune en 1771. Sa musique continue à nous amuser et à nous enchanter. Voici un de ses concertos pour orgue et orchestre.
Thank you.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.